En cette seconde étape de l'Avent, eh bien, nous voici avec, en compagnie de Saint Jean-Baptiste, mais nous sommes aussi en compagnie de l'Immaculée, car mercredi, c'est la célébration de cette fête que nous ferons dans la joie dans cette chapelle ici. Donc, je rappelle, ce sera à 11h30, comme en semaine. L'Immaculée, elle est... Alors, c'est intéressant parce que il y a... Entre Jean-Baptiste qui prêche un baptême de conversion au désert par un retour à la loi, mais à une juste compréhension de la loi, et l'Immaculée qui est l'œuvre, l'accomplissement total qui va au-delà même de cette loi. C'est ce parallélisme que je voudrais voir avec vous, ou mettre en lumière. C'est l'Immaculée, c'est une pureté spirituelle qui est totalement nouvelle. Dans l'humanité, ça a été le miracle des miracles. On n'a jamais fait mieux depuis, d'ailleurs. Elle représente quoi, l'Immaculée, ce don de l'Immaculée Conception, la préservation du péché originel? Ça représente un dépassement du décalogue lui-même. Ça, et comment? Le décalogue, c'est donc ces 10 commandements que Jésus lui-même a voulu conserver dans notre foi chrétienne, alors qu'il a mis de côté tout le reste. Et c'est le noyau, c'est vraiment quelque chose qui ne se démode pas. C'est quelque chose qui nous permet, qui permet à tous les hommes, depuis le commencement du monde, d'ailleurs, de reconnaître le bien et le mal, et de pouvoir distinguer la voie à suivre pour y demeurer. L'Immaculée, l'œuvre que Dieu a accomplie dans l'Immaculée, à travers elle, ça dépasse la perspective du décalogue. C'est une union constante avec Dieu, c'est ça le don qui est fait à Marie. Une union constante, une union que rien ne vient troubler. Aucun bruit du monde, comme on est dans une pièce par exemple en ville, à certaines heures, il y a tellement de bruit dehors, ça, on n'arrive plus à se concentrer, à prier. Eh bien, l'Immaculée, elle n'était pas dérangée par les bruits du dehors. Elle a une âme totalement insonorisée aux cris de révolte des hommes ou des démons eux-mêmes. Elle demeure en union avec Dieu dans la paix et l'harmonie. C'est un cadeau magnifique, c'est le cadeau que nous désirons tous, que nous désirons trouver au ciel, dans l'éternité. Cette union, cette paix, cette liberté totale vis-à-vis des ténèbres, s'entend évidemment. Une relation personnelle à Dieu. Cette relation personnelle, les prophètes y avaient goûté un tout petit peu du bout des lèvres, parce que elle était impliquée dans leur mission. Mais c'était toujours quelque chose de ponctuel, et encore, ce n'était pas pleinement accompli. Mais quand Moïse se tient face à face de Dieu, ou le prophète Élie, il y a une expérience personnelle avec Dieu, c'est incontestable. Mais ça demeurait un miracle dans la vie même d'un prophète. La Vierge, elle se tient perpétuellement en présence de Dieu. Et ça, depuis sa naissance. Immaculée, voilà ce don incompréhensible pour nous, car nous sommes nés, malheureusement, sous le joug du péché originel. Elle, Marie, elle n'en a aucune conséquence. Alors évidemment, elle n'avait pas besoin d'aller voir Jean-Baptiste au désert pour se convertir, parce qu'elle n'avait pas besoin de se convertir. Dans le prologue, en parlant de Jésus, cette fois-ci, saint Jean nous dit, le Verbe, Jésus, il n'est né ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, il est né de Dieu. On peut attribuer ces paroles à la Vierge elle-même. Elle n'est pas née du sang, d'une volonté charnelle, d'une volonté d'homme. Rien de ce qui est génétique, rien de ce qui est sexuel, affectif, que sais-je moi, n'entre en ligne de compte dans le don qui lui est fait. Ce don-là, l'humanité l'avait perdu génétiquement même, si j'ose dire. C'était un don qui s'était fermé, qui avait disparu avec Adam et Ève. Et elle reçoit tout de Dieu, c'est une œuvre toute de Dieu, que le fait d'être préservée du péché originel. Et elle inaugure la Vierge Marie, avant Jésus, elle inaugure déjà ce qu'est la définition de la sainteté chrétienne. La sainteté chrétienne, ce n'est pas seulement suivre le décalogue. C'est suivre le décalogue, car nous avons besoin d'un chemin. Mais c'est un dépassement du décalogue, la sainteté chrétienne. C'est une union à Dieu. Les Juifs sont les premiers à dire que Dieu, comme les musulmans d'ailleurs, qui prennent modèle sur eux, que Dieu est transcendant et qu'on ne peut pas entrer en relation avec lui tellement il est transcendant. Donc il n'y a pas d'union. Quand ils sont pieux, quand ils reviennent au décalogue, ils arrivent à faire la volonté de Dieu, mais il n'y a pas cette union des cœurs. Nous, nous bénéficions, à la suite de Marie, qui est la première, de cette union inimaginable. Et c'est le sens de l'Avent, la naissance de Jésus dans nos cœurs. C'est notre programme, voir se former dans nos âmes le Seigneur à nouveau, toujours davantage, dans cette intimité, dans cette intériorité qui est la nôtre. Dans tous les moments difficiles, socialement, sociologiquement, comme aujourd'hui, où la voix du monde se fait toujours plus, despotique, et toujours plus forte pour être entendue inévitablement de tous, l'intériorité est toujours le refuge, le désert sacré, où Dieu nous attend. C'est un lieu que personne ne peut violer, pas même le diable, pas même les démons, personne ne peut violer l'intériorité. Et quand Dieu l'habite, alors là, elle n'est pas seulement forte, elle devient rayonnante. Jean-Baptiste, sa mission au désert, c'était de retrouver le sens de l'efficacité de l'intériorité. Le sens et l'efficacité. Vous voyez, l'intériorité, c'est le sens de cette construction spirituelle que Dieu réalise dans l'homme. Ça ne va pas dans le sens de l'extériorité, c'est nous autres, les hommes, nous allons vers ce qui est toujours plus extérieur, de la planète Terre jusqu'aux confins de l'univers. C'est dans ce sens-là qu'on envisage le déploiement de notre puissance, de notre mainmise sur le monde. Dieu, c'est l'inverse. Ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est un don inimaginable. On n'en prend pas assez la mesure. Donc l'Avent, première chose, découvrir ce sens et cette efficacité de l'intériorité contre tout ce qui veut nous abattre, nous enténébrer. C'est retrouver aussi le sens du péché. C'est toute la prédication de Jean-Baptiste. C'est à des gens qu'il avait complètement oubliés, hein, faut pas se faire d'illusions. Ses contemporains vivaient sous le joug de l'Empire romain et de la culture romaine comme nous vivons aujourd'hui sous le joug de la culture de la modernité. La culture romaine, à l'époque, ça paraissait aussi gigantesque, aussi écrasant, aussi puissant que la modernité que nous connaissons. Il n'y a pas de différence dans le contenu, il y en a, mais pas dans la façon dont les hommes la recevaient. C'était la culture qui avait la vérité, qui était contre Dieu, bien évidemment. Cette vérité-là, elle est habitée, elle est même tissée par le péché. Et Jean-Baptiste a été obligé de demander aux gens bien, de venir au désert, donc de revenir à leur intériorité, de faire naître cette intériorité dans son auditoire, car c'est le sens du désert. Et pour s'abreuver au Jourdain, le Jourdain, c'est un symbole, c'est pas seulement l'eau matérielle dans laquelle les gens immergeaient leur corps, c'est la loi, ça symbolise la loi, le retour à la loi. Être baptisé, donc, pas seulement d'eau, mais être baptisé dans le décalogue. C'est un peu ça que Jean-Baptiste réalise au désert. Et c'est le remède que Dieu lui avait indiqué pour préparer, pas pour accomplir, mais pour préparer la venue du Seigneur. Alors, Marie, en tant qu'Immaculée Conception, elle est d'ores et déjà au-delà de tout cela. Elle est le résultat accompli de la rédemption. Avant même que Jésus ne naisse et ne commence lui-même à réaliser concrètement cette rédemption du monde. Une telle avance, une telle exemplarité, et le tout vécu dans la discrétion la plus absolue, l'humilité la plus suave, la plus magnifique, c'est vraiment une inspiration pour nous tous. Demandons à Marie, dans sa demeure ici, de nous donner un petit peu de ce parfum de l'en haut. Et cet en haut, il n'est pas extérieur à nous, il est tout à l'intime de nous, où il y a cette grotte, cette étable, où doit naître impérativement le Sauveur.